Ça doit être la même chose à la foire du livre de Moinsartou. Je ne sais pas si on l'appelle foire du livre. Festival du livre de Moinsartou. Bon, bref. Mais aux rencontres littéraires de Pau, nous avons passé 8 ans à Pau, et c'était François Bayrou. Enfin, il est toujours le maire de Pau, mais il avait lancé les rencontres littéraires. Et la publicité pour ces rencontres littéraires, c'était, je cite, « Vous allez pouvoir rencontrer votre auteur préféré. Rencontrer l'auteur. » Et en 2016, je crois, le thème, c'était le bonheur, et ils avaient invité Luc Ferry, et j'y avais été, et j'avais vu une file de 50 personnes qui attendaient de pouvoir serrer la pince à pas Jules, Luc Ferry, pardon, sur le bonheur. Rencontrer l'auteur. Oui, quand on a lu un livre qui nous a plu, on a envie de rencontrer l'auteur. Et on pourrait en dire autant pour le premier livre de la Bible, la Genèse, qui nous parle de cette création absolument magnifique. Et quand on regarde la création, on pourrait avoir envie de rencontrer l'auteur. Pas l'auteur des lignes de la Genèse, selon la tradition, c'est Moïse, mais l'auteur de cette création. Oui, rencontrer l'auteur. Et je commence aujourd'hui, c'est officiel, une série de prédications sur la Genèse, pour que nous puissions rencontrer l'auteur. Et le but de ce récit, c'est justement ça, c'est que nous puissions rencontrer Dieu. Le but de la Genèse, c'est de pouvoir rencontrer Dieu. Il ne faut pas se tromper, ce récit n'essaye pas de nous donner une explication scientifique de comment tout est apparu. Mais son intention, c'est de nous faire rencontrer Dieu, nous parler de Dieu et de l'intention qu'il a pour ce monde. La Genèse, comme tous les autres livres de la Bible, nous parle de Dieu, cherche à nous révéler Dieu. Et ce matin, en 3 phrases, j'aimerais vous amener, avec beaucoup d'humilité, à rencontrer l'auteur. Et la première de ces phrases est en fait la première de toute la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa ». Genèse chapitre 1, verset 1. Et cette phrase est énorme. « Au commencement, Dieu créa ». Pour chaque mot, on pourrait faire une prédication, et même pour chaque mot, « commencement, Dieu créa », on pourrait écrire un livre, et on pourrait remplir une bibliothèque de ces 3 mots. Et je n'ai pas la prétention de faire le tour de ces 3 mots, de cette première phrase, mais de simplement noter une évidence, c'est qu'il y a un commencement. Il y a un début pour la création. Et dans la Torah, l'appellation juive pour la Bible, ça commence par le mot Genèse, c'est commencement, Bereshit, le premier mot, au commencement. Et Genèse veut dire d'ailleurs commencement ou origine. Alors nous l'avons dit, la Bible, et nous le disons encore, n'est pas un livre de science qui n'essaye pas d'expliquer le comment. Mais la science aujourd'hui nous dit quand même qu'il y a effectivement un commencement. Vous savez, dans les années 50 du XXe siècle, la théorie en vogue à l'époque, c'était la théorie de l'état stationnaire, qui voulait que l'univers était stable et éternel. Une conception qui avait, comme beaucoup de conceptions, des racines dans la philosophie grecque, qui était pour la stabilité des choses, comme l'immortalité de l'âme. On en a parlé ce week-end. Et donc, l'état stationnaire, la théorie de l'état stationnaire voulait que l'univers ait toujours existé et donc qu'il n'avait pas de commencement. Et cette théorie de l'état stationnaire venait se heurter de plein frontalement au premier verset de la Genèse. Mais aujourd'hui, la théorie du Big Bang, l'explosion primordiale, a fini par s'imposer et cette théorie a été reconnue par beaucoup de scientifiques comme Stephen Hawking qui a écrit « Presque tout le monde croit à présent que l'univers a commencé avec le Big Bang. » Pour une fois, la science et la Genèse s'accordent à dire. qu'il y a un commencement. Et une docteur, une chrétienne qui est docteur en biologie moléculaire, cellulaire, le mari est pasteur, ils font ensemble de l'implantation d'églises dans la région de Paris, disait que la théorie du Big Bang rejoint l'affirmation fondamentale de la Genèse, à savoir qu'il y a un début de l'univers. Il y a un commencement. Il y a un début. Et il y a, dans ce commencement, Dieu parle ou il lance la création avec le moyen de sa parole. Il le fait avec sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il y a plusieurs, cette expression revient plusieurs fois. Et nous avons aussi au verset 26 cette expression « faisons l'homme à notre image ». Faisons l'homme, comme s'il y avait une délibération interne dans la cuisine intérieure de Dieu. Ils se disent « faisons l'homme ». Peut-être une allusion à la Trinité. Dès le départ, la Trinité est présente à la création. « Faisons l'homme à notre image ». Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette idée d'une création par la parole ? D'abord, c'est celle, l'idée première, c'est celle de l'autorité absolue de celui qui parle. Il suffit à Dieu de parler pour que s'opèrent les séparations puis les peuplements des mers, de la terre, etc., du ciel. Il lui suffit de parler, mais il est significatif de noter qu'il l'a fait. Il a parlé, Dieu a parlé, il a voulu. Il lui a plu de rompre le silence pour créer par sa parole créatrice. Il y a une intention de Dieu derrière, mais aussi la maîtrise de ces choses. Et cela fut ainsi. C'est fait. Il parle et c'est fait. Rien ne résiste au commandement de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, la chose se fait, et plutôt deux fois qu'une. Et je cite une version littérale de l'hébreu, « La terre verdoie de verdure, les volatiles volent, les eaux grouillent d'un grouillement, l'herbe sème de la semence. » Bon. Dieu dit « et tout grouille ». Tout cela, c'est dans le texte, et veut mettre l'accent sur l'accomplissement infaillible de la parole de Dieu, comme dans Ésaïe 55. « La parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, vide ou avide. » Non. Elle accomplit vraiment ce qu'elle a l'intention de faire. L'autorité absolue de la parole de Dieu, ou de Dieu, mais aussi l'intelligence de Dieu pour créer. Il y a Henri Blocher, qui était le doyen de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, pendant le temps où j'y étais. J'ai énormément de respect pour cet homme, un homme d'une grande intelligence, d'une grande foi et d'une grande humilité. La création, dit-il, par la parole, ce n'est pas seulement une création sans outils et sans efforts, c'est une création par laquelle Dieu montre son cœur, démontre son intelligence, inaugure la communication de lui-même. Quand Dieu crée par sa parole, il montre toute la cohérence de son plan et surtout son intention d'être en communication avec ses créatures, l'homme et la femme qu'il a créés. Et là où il y a intention, il n'y a pas de hasard. Tout n'a pas été créé par hasard. Enfin, l'univers n'a pas été créé par hasard, il a été créé par une intention. Et quand il y a intention et qu'il n'y a pas de hasard, il y a du sens. Le fait de savoir que Dieu avait l'intention de vous créer et ne vous a pas créé par hasard, ça donne du sens à chacune de notre vie. Au commencement, Dieu créa. Il y a une grande sagesse dans tout cela, il y a une autorité, il y a de l'intentionnalité, il y a du cœur. Et quand on fait un détour par le Nouveau Testament, on comprend bien pourquoi les 24 vieillards ou les 24 représentants du peuple de Dieu qui se prosternent devant celui qui vit éternellement disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté, à ton intention de le faire. » Je passe à la deuxième phrase, qui nous permet encore de mieux connaître l'auteur. Et cette deuxième phrase se répète plusieurs fois. « Dieu vit que cela était bon. » Elle commence pour la lumière, en Genèse 1, verset 4, « Dieu vit que la lumière était bonne », et elle revient encore 5 fois, et si mes calculs sont bons, ça fait au total 6 fois, ça fait pour chaque jour. Et au verset 31, ça termine par un superlatif, « C'était très bon ». Et le bon ou le très bon vient en contraste avec le chaotique et le vide du verset 2, qui traduit le verbe hébreu, le mot hébreu ou l'expression hébraïque, qui se dit tohu bohu, et qui a donné une expression en français. Tohu bohu, ça veut dire un petit peu pagaille, désordre. Oh, quel Eric, quel tohu bohu ta chambre, me disait ma mère. Non, je ne pense pas qu'elle me le disait, mais bon, elle aurait pu. Alors, si on prend la définition un peu plus exacte de tohu-bohu, en tout cas en hébreu, ça évoque l'idée d'un désert inhabitable où il n'y a pas de chemin. La terre était informe et vide, la terre était tohu-bohu, la terre était un désert inhabitable où il n'y avait pas de chemin, avec l'idée de vide, l'idée de désolation et l'idée de solitude aussi. Une chose un petit peu chaotique et surtout très vide. Et Dieu créa et mit des formes à sa création. Il y mit du beau, du bien, du bon. Et en hébreu comme en grec, c'est-à-dire les langues de la Bible, on a le même objectif, le même adjectif pour exprimer à la fois ce qui est beau au sens esthétique et ce qui est bien au sens moral du terme. Ce qui est bon aussi dans son effet, ce qui est bienfaisant, tout ça dans le même mot. Tof et kalos en grec. Et cette répétition de l'expression « et Dieu vit que cela était bon » nous montre une chose, c'est que Dieu aime le beau, le bon, le bien. Que Dieu est un Dieu moral, mais aussi un Dieu éthique et aussi un Dieu esthétique. Et on est très loin du Dieu punisseur et rabat-joie et trouble-fête que les longs siècles d'histoire de l'Église ont voulu nous présenter. Dieu veut le bien de sa créature et il le veut dès le départ. Et Dieu vit que cela était bon jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la fin. Non seulement il veut le bien, mais il veut aussi le beau. Dieu fait toute chose belle. Alors vous qui avez peut-être déjà lu la Genèse, vous savez qu'au chapitre 3, il y a quelque chose qui va apparaître de très laid. Il y a le mal qui va apparaître. Et nous en parlerons, puisque nous commençons une série sur la Genèse. Quelque chose qui va venir noircir le tableau, mais malgré tout, il reste dans ce monde des choses qui portent la signature de Dieu, de ce Dieu qui aime le beau et le bien. J'ai vu par hasard, sur YouTube, un assemblage des vidéos de caméras de surveillance de la police dans les villes d'Angleterre. Et c'est des vidéos que la police ne voulait pas. Ça n'intéressait pas du tout la police, parce qu'il n'y avait pas d'infraction, il n'y avait pas de délit, il n'y avait que des belles choses sur ces vidéos. Je me souviens, il y avait la vidéo d'un couple qui s'embrasse sur un banc public. Très maladroitement, mais c'était vachement beau à les voir. Et puis il y avait aussi la vidéo de quelqu'un qui ramasse un portefeuille qui est sur le trottoir et qui court après la personne qui l'a perdu. Et il lui rend son portefeuille. Ça n'intéresse pas la police, ça. Il n'y a pas de délit. Mais c'est beau. C'est bien. Et ça, à mon avis, ça fait partie de la grâce universelle de Dieu, de Dieu dans le monde. C'est que des hommes et des femmes peuvent faire des choses belles et bonnes grâce à ce Dieu du bon et du bien. Et aujourd'hui encore, nous sommes touchés par ce qui est beau et ce qui est bien. Et pourquoi le sommes-nous? Parce que ce beau et ce bien nous renvoie à ce Dieu créateur du beau et du bien. Parce qu'il nous met en contact avec lui, parfois de façon très diffuse. Vous vous souvenez de Leonard Bernstein, celui qui a écrit la musique de « West Side Story » Je dois le dire doucement, sinon je m'en mêle les pinceaux. Mais regardez ce qu'il dit de Beethoven. Et ce type, c'est Beethoven, mais c'est Bernstein qui parle. Ce type, Beethoven, a créé des œuvres d'une justesse à couper le souffle. Justesse, c'est le mot. Quand vous avez le sentiment que la note qui suit une autre est la seule possible à cet instant, vous écoutez du Beethoven. Ce Beethoven a le pouvoir de vous conduire à cette conclusion. Il y a quelque chose de juste dans ce monde. Il y a quelque chose qui est aux commandes d'un bout à l'autre. Quelque chose qui est digne de confiance, qui ne vous laissera pas tomber. Ça, c'est Bernstein qui parle. Et Bernstein n'est pas chrétien. Bernstein n'est pas croyant. Alors, on ne sait pas comment il arrive à cette conclusion en écoutant du Beethoven. Moi, j'ai écouté du Beethoven et je n'arrive pas à cette conclusion. Par contre, quand j'entends une introduction au piano de Supertramp, là, j'ai le même sentiment que Bernstein. Mais bref, chacun ses goûts et ses couleurs. Mais Bernstein, il ressent quelque chose de l'infini face au beau. Quelque chose que l'on n'exprime pas autrement que par la création d'un monde où, dès le départ, le beau et le bon existent. Et si la science nous aide à comprendre un peu l'origine, elle ne nous permet pas de comprendre cette force d'attraction qu'il y a vers le beau et le bien. On est au-delà des compétences scientifiques. Et elle ne peut expliquer ni comment ni pourquoi Leonard Bernstein, quand il écoute la musique de Beethoven, ressent quelque chose qui l'élève vers le haut et qui dit d'ailleurs « c'est quelque chose qui est juste au-dessus de nous ». Elle ne peut expliquer ce fait que même si intellectuellement Bernstein pense que Dieu n'existe pas, son cœur, son être intérieur lui dit autre chose. Qu'il y a quelque chose, quelqu'un en qui on peut faire confiance, quelqu'un en haut qui aime le beau et qui dit sur tout ce qu'il a créé, et voici, tout était très bon. Une parole du Nouveau Testament, c'est des conseils que Paul donne à son jeune ami Timothée. Et il le dit parce que à Éphèse, là où Timothée essaye d'être le responsable de l'Église, il y a des personnes qui interdisent le mariage et la sexualité qui va avec, ou même certains aliments. Alors, Paul leur dit, alors, pourquoi disent-ils ça? Alors que Dieu a créé toutes choses pour les croyants, pour que les croyants en jouissent avec reconnaissance. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le remercie Dieu en le prenant. Comme quoi, la beauté et la bonté de Dieu nous poussent à la reconnaissance, à la louange, et même à la jouissance, avec modération, dans le cadre de la parole de Dieu. Mais la jouissance quand même, la réjouissance et la jouissance du beau et du bien. La troisième phrase, la deuxième, c'est « et cela était bon ». C'est au verset 26, puis Dieu dit « faisons les hommes de sorte qu'ils soient à notre image, qu'ils nous ressemblent ». Et comme si on ne l'avait pas bien compris, il le répète au verset 27, en ajoutant un autre élément, « Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image, oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu ». Puis il ajoute, il les créa, hommes et femmes. Là aussi, on pourrait écrire des livres entiers sur ce verset, ce qui a été fait d'ailleurs, mais je voudrais donner ce matin juste quelques amorces. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'auteur, cette création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu? Ça nous apprend d'abord l'égalité essentielle de l'homme et de la femme. Essentielle, c'est-à-dire dès le commencement. Une égalité essentielle. Dieu, dès le départ, pose l'égalité de l'homme et de la femme devant lui. Dieu se révèle comme le Dieu de l'égalité créationnelle, une égalité essentielle. L'homme comme la femme comme l'homme a été créé à l'image de Dieu. Pas un plus que l'autre, pas un moins que l'autre. C'est écrit dès le premier chapitre de la Genèse, et là encore, on s'étonne que l'Église ne l'a pas toujours respecté, cette égalité originelle. Ça reste un mystère, cette interprétation de l'Église, qui pourrait s'expliquer avec ce qui va se passer en Genèse 3. La rupture, la chute, c'est le prochain épisode. Deuxième chose que nous dit cette création de l'homme à son image, c'est la valeur toute particulière de l'être humain. Pourquoi ? Parce que l'être humain est le seul, dans la description de la Genèse, à avoir été fait à l'image de Dieu, à la ressemblance du Créateur. Et en Genèse 2, nous l'avons lu tout à l'heure, au verset 7, Il y a un traitement spécial pour l'être humain. L'Éternel façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, ici, on a... c'est un vocabulaire imagé. On parle de Dieu avec le vocabulaire et des images qui sont humaines. Mais ce qui est évident, c'est que cela n'est pas dit pour les animaux. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les animaux. Il y a un avenir pour les animaux et toute la création. Mais cela veut dire que l'être humain a une place spéciale dans la création de Dieu. Et que Dieu nous ait créé à son image, ça veut dire qu'il y a un statut particulier de l'être humain devant Dieu. Et le mot « fait à l'image » fait penser, les spécialistes le disent, à cette idée de filiation. Et cette pensée est bien présente dans le texte. Être à l'image de Dieu, c'est être fille et fils de Dieu, une relation filiale avec Dieu. On dit parfois « Oh, c'est le portrait craché de son père ou de sa mère. » Il lui ressemble tellement. Mais quand la Bible nous parle d'image, elle nous parle de l'intérieur. Et au lieu de dire le portrait craché, il faudrait dire le portrait soufflé de son père ou de sa mère, puisqu'il lui insuffla un esprit de vie. On ressemble à Dieu par notre esprit. On peut rentrer en relation avec Dieu par son esprit, une relation d'alliance. On pourrait même parler d'une relation d'amour, parce qu'on est enfants de ce père qui nous aime. Oh, le portrait soufflé de son père. Il a le même esprit, il a le même cœur. Et cette création à l'image de ce Dieu donne une valeur incroyable à toutes ces créatures, à vous et moi, et aux autres, à ceux qui ne sont pas là, et à l'univers entier pour, en ce qui concerne la population humaine. Cela ne donne pas à l'être humain un statut divin, mais quand même un statut particulier devant Dieu et donc devant tous les hommes. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui des droits de l'homme. Il faut respecter les droits de l'homme. Il y a des classements internationaux sur les pays qui respectent le mieux les droits de l'homme. Mais qu'est-ce qui fonde ces droits de l'homme, quand on y réfléchit? Qu'est-ce qui fonde, par exemple, tout ce qu'on fait pour, en tant qu'aide humanitaire? Alors, on apporte, les humanitaires, comme on les appelle, apportent des réponses diverses et variées. Et quand on interroge quelqu'un qui travaille dans une association humanitaire, ou une, pourquoi vous faites tout ça? Il dit, solidarité avec l'humanité. Ouais, mais il faudrait pousser un peu plus loin. Juste pour solidarité avec l'humanité. En 2007, on a fêté, je ne sais pas si vous vous souvenez, en France, l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et il y avait un penseur antillais, un intellectuel antillais, il s'appelait Jean-Claude Girondin, et je me souviens très bien, qui disait avec force que c'était justement cette création à l'image de Dieu qui fondait la lutte contre l'esclavage et rien d'autre. Tous nos combats et tous ceux de nos contemporains non-chrétiens, même s'ils ne le savent pas, les luttes contre les esclavages de toutes sortes ou les inégalités, les oppressions, la lutte contre les oppressions sont fondées sur cette parole même de Dieu. J'ai créé à mon image, cet enfant. J'ai créé à mon image cette femme qui souffre. J'ai créé à mon image cet homme. Il a de la valeur à mes yeux parce qu'il a été créé à mon image. C'est ça qui fonde tous nos combats pour l'humanité, pour l'humanitaire. Et nous savons encore une fois que cette image, malheureusement, en Genèse 3, a été ternie par ce mal qui fait irruption, non pas seulement dans le monde, mais dans la vie des hommes, et dans ma vie aussi. Et si elle a été détériorée dans sa relation avec Dieu, elle n'est pas anéantie pour autant, et elle va pouvoir se reconstruire, malgré le péché. Et cette image de Dieu en l'homme va être complètement renouvelée en Jésus-Christ. Le Fils unique venu du Père. La Bible nous dit que Jésus est l'image parfaite du Père et que notre image, détériorée par le péché, ternie par le péché ou par le mal personnel et universel, va être restauré en Jésus-Christ. On va en reparler tout à l'heure en introduction à la Sainte-Cène, mais je trouve que c'est une tellement belle image, une belle, bonne nouvelle de l'Évangile. Cette image va être reconstruite, va être recréée, une recréation, une résurrection. Il y a, comme je l'ai fait pour chaque point, une parole du Nouveau Testament qui nous parle dans Romains 8, un très très beau chapitre de la Bible, qui nous dit que Dieu nous a destinés d'avance, écoutez bien, à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est l'image de son Fils, l'image parfaite de Dieu qui est en son Fils Jésus-Christ, va venir. Et nous aurons cette image de Dieu par son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. C'est nous les frères et sœurs. Et Jésus serait notre frère aimé, frère aîné et bien-aimé. Destiné, c'est ton destin à devenir conforme à l'image de son Fils. On pourrait dire ta vocation, ton appel, un appel de Dieu à la reconstruction de ton image de toi, de l'image de soi ou de l'image de Christ en soi. Alors je vous l'avais dit, ce passage peut nous amener très loin, et on est loin d'avoir répondu à toutes les questions ou avoir relevé toutes les richesses de ce récit de commencement. Mais j'ai quand même l'impression que nous avons pu faire connaissance avec son auteur. On a pu voir que Dieu est le Dieu de la parole, qui parle et qui crée avec autorité et avec la volonté de communiquer avec ses créatures, en communiquant par sa parole et en communiquant sa parole, le Verbe, Jésus, Jean 1. Alors quand on parle de communication, la question peut-être à se poser, est-ce que vous recevez la communication 5 sur 5 ? Est-ce que vous avez décroché le téléphone ou le portable ou appuyé ? Ou pour prendre un autre mot, êtes-vous connecté ? Il se révèle aussi comme le Dieu du bon et du bien qui signe toute la création de cette signature du beau et du bien et qui nous invite à y participer à ce beau et ce bien par les arts peut-être, par le chant, par la musique, par la préservation de la création. Il nous appelle à apposer notre signature à côté de la sienne sur le bon et sur le beau. Et la question à se poser c'est est-ce qu'on est prêt à signer ? Avec Dieu, pour défendre le beau, le bien et le bon. Et le Dieu de la relation qui souffle son esprit à l'homme et la femme et qui les crée à son image pour avoir une relation spirituelle avec eux. Et donc avec nous, qui sommes les descendants de ces premiers hommes. Une relation avec toi. Et donc la question, c'est comment va ta relation avec le Père créateur ? L'auteur de cette création vaut la peine d'être connu, n'est-ce pas ? Le connaître, pour pouvoir lui rendre la gloire qui lui est due, pour pouvoir le louer et pour pouvoir vivre en relation avec lui. Amen.